15 août 1534, dans la chapelle des martyrs à Montmartre, sept amis, parmi lesquels Ignace de Loyola, scellent un vœu, celui de suivre le Christ et de l'annoncer de par le monde. Ce petit groupe prendra plus tard le nom de Compagnie de Jésus, un nom qui deviendra indissociable de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Le journaliste et historien Hervé Yanou.
La Compagnie de Jésus, dans son esprit originel, est liée à une époque, le XVIe siècle, celui de la réforme catholique et d'une période de grande crise pour l'Église et le Saint-Siège. Et les jésuites sont nés de cette rencontre entre cette difficile période et un homme, Ignace de Loyola, qui a voulu donner à sa compagnie un visage extrêmement original et a voulu, en fondant la Compagnie de Jésus, donner un renouveau, refonder l'esprit missionnaire et pour pouvoir combattre en premier lieu, parce que la mission c'était en premier lieu combattre les protestants de la réforme à travers donc la contre-réforme catholique. Alors effectivement, sans les jésuites, sans l'art qu'ils ont développé, l'art baroque, la capitale du catholicisme, Rome, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, n'aurait pas ce visage visité, tant visité par les touristes ici à Rome. En fait, les jésuites n'ont pas inventé une architecture, ils ont développé un art architectural qui répondait aux exigences de la foi catholique et de la diffusion du catholicisme voulu par la contre-réforme et le concile de Trente. Ce sont ces grandes églises où on pouvait accueillir beaucoup de fidèles, où l'on pouvait très bien entendre les prêches et surtout impressionner les fidèles par un décor baroque avec ses statues, ses angelots, ses trompe-l'œil qui devaient en quelque sorte ouvrir une petite fenêtre de paradis aux fidèles qui pénétraient dans les nouvelles églises de l'Église catholique. Alors si aujourd'hui les jésuites sont un ordre aussi connu, aussi fameux, c'est parce qu'effectivement il y a un peu de mystère autour d'eux et leur rôle auprès des puissants a aussi été très souvent souligné dans la littérature anti-jésuitique qui s'est développée dès le 16e, 17e et s'est ancrée dans la pensée au 19e siècle. Les jésuites ont été proches des rois, proches des papes, proches des princes, mais aussi, on l'oublie souvent, proches des pauvres. On a retenu ce lien avec le pouvoir. Alors pourquoi ? Parce que les jésuites avaient dans l'idée que pour convaincre, pour recatholiciser une Europe qui avait échappé au pape, il fallait d'abord convertir les princes et faire en sorte que le modèle du prince chrétien, bien entouré, qui a conscience de ce qu'est le catholicisme, ce qu'est sa foi, imprègne définitivement les cours princières. Alors ils se sont fait confesseurs des rois, ce qui leur a valu des ennemis, parce que lorsque l'on était confesseur des rois, on finissait par être conseiller du prince, et quand on est conseiller, eh bien on se mêle de questions plus politiques que religieuses.
L'histoire des jésuites est marquée par sa proximité avec le pouvoir spirituel et temporel, mais la compagnie s'est aussi singularisée par son envergure intellectuelle.
La Compagnie de Jésus est une compagnie d'intellectuels. Ils se sont d'ailleurs heurtés à d'autres ordres aussi intellectuels, comme les dominicains en particulier. Les anciennes tensions qui en fait font partie de la vie de l'Église et de cette vie intellectuelle et théologique qui l'anime. Les jésuites sont des intellectuels par la volonté d'Ignace de Loyola. Ignace s'est converti sur le tard et a repris des études en Espagne puis à Paris et voulait être entouré de gens mûrs, formés, et qui avait les capacités intellectuelles de pouvoir diffuser la foi catholique de façon raisonnée et de répondre ainsi aux protestants qui, eux, avaient développé toute une lecture de la Bible et une connaissance parfaite des dogmes et des principes. Donc, il a voulu être entouré d'intellectuels, de gens formés universitairement, ce qui n'a pas toujours été simple.
L'image des jésuites a fortement évolué au XXe siècle à mesure que l'image de l'Église changeait aussi.
L'image et l'identité de la compagnie a évolué à la fin du XXe siècle, en particulier après le Concile Vatican II. Comme dans toute l'Église catholique, le Concile a constitué une rupture. Les jésuites ont été confrontés à la nécessité d'appliquer les décisions conciliaires, ce qui n'a pas été sans mal. On connaît la crise qu'a connue la compagnie sous le généralat de Pedro Arrupé. Et en gros, oui, les jésuites avant Vatican II étaient considérés comme les gardiens de l'intransigeance romaine, du conservatisme à tout prix. Et puis ils sont passés dans les années 70, avec en particulier leur engagement dans la théologie de la libération, on va dire à des gens de gauche. Ce qui a fait qu'ils ont gagné des amis, ils se sont fait d'autres ennemis, et que ceci fait en définitive partie de l'histoire de la congrégation qui, depuis le XVIe siècle, a eu des ennemis et des amis à cause de ses engagements fermes sur le terrain, ce qui ne se fait jamais sans risque.
Aujourd'hui, quel est le poids et l'influence des jésuites dans la vie de l'Église ?
Alors, le poids des jésuites, effectivement, ils sont 19 000. On dit qu'ils ne sont pas très nombreux. Contrairement à d'autres ordres religieux, ils sont quand même assez nombreux. 19 000, ça fait encore partie des ordres religieux assez puissants. Ils sont surtout influents par les différents postes qu'ils tiennent. Nous sommes ici à Rome, nous sommes ici à Radio Vatican. Et Radio Vatican a été confié par les papes aux jésuites. Et donc, c'est à eux de diffuser la parole du pape. Ils sont influents parce que ce sont des intellectuels. Ils ont un réseau de revues, un réseau même Internet très développé. Et d'universités non négligeables, en particulier aux États-Unis. On pense à l'université de Georgetown à Washington, qui forme des cadres internationaux pour les États-Unis. Et donc, cet ensemble de réseaux, de pensées intellectuelles qui irradient l'ensemble de la réflexion mondiale font que les jésuites sont des gens toujours extrêmement écoutés et présents à peu près sur tous les tableaux.
Quels sont les enjeux de cette 35e congrégation générale de la Compagnie de Jésus ?
La 35e congrégation générale est un moment rare, puisque les jésuites se réunissent très rarement, contrairement à d'autres ordres qui ont des réunions régulières tous les 4-5 ans, voire annuelles, et qui élisent leur chef régulièrement. Le général des jésuites, le préposé général, surnommé le pape noir, lui est élu à vie, dans une ambiance de conclave, on va dire, qui se rapproche un peu de l'élection pontificale. Et depuis 12 ans, ils ne se sont pas réunis dans cette grande états généraux de la compagnie. Alors effectivement, c'est le moment pour la compagnie de mettre à plat ses problèmes et donc de tracer des perspectives. Alors elle va poser la question de son identité, de la question de l'obéissance, la question de la diffusion de la foi, et puis sortira de là effectivement la figure du nouveau général. Sera-t-il européen, sera-t-il asiatique ou d'Amérique du Sud ? Ils vont devoir choisir le profil de leur chef qui va devoir normalement les diriger jusqu'à sa mort.
La Congrégation Générale des Jésuites, réunie à Rome, doit trouver un 29e successeur à Saint-Ignace de Loyola. L'occasion pour eux de tourner une page de leur très riche histoire et de discerner, selon les mots du Père Général Colvenbar, ce qui est lumière dans la compagnie, ou plutôt ombre, dans son service à l'Église et au monde.